France Inter.
De transmission et auteur d'une quinzaine de livres, le chef multi-étoilé Pierre Gagnaire régale les corps et âmes des mangeurs dans une dizaine d'établissements à travers le monde avec des cartes sorties de son imagination à Londres, Séoul, Dubaï, Hong Kong ou Berlin, évidemment à Paris dans le restaurant qui porte son nom, ainsi qu'au Gaïa et au Pierrot. Celui qui a commencé comme pâtissier a fait ses classes chez Paul Bocuse et repris pendant 3 ans le restaurant familial. Ses premières 3 étoiles ont couronné son premier restaurant à Saint-Étienne, lieu qu'il devra fermé en 96 à la suite de difficultés financières, avant de rebondir rue Balzac à Paris et de retrouver son trio d'astres Michelin. Suite à divers entretiens avec l'écrivain, journaliste et chroniqueur culinaire Jackie Durand, il livre aux éditions de Noël le fruit de 50 années d'expérience au fourneau à travers l'ouvrage Masterclass. Anecdotes sur ses goûts et son parcours, association d'aliments et recettes émaillent l'ouvrage qui permet de se plonger dans sa vision de l'art culinaire. À vos notes et casseroles, bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Pierre Gagnaire.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
Eh bien, un film que j'ai vu hier soir. Mandré. J'ai pas du tout capté le nom de ce metteur en scène qui semble assez connu, très connu même. Et c'est une histoire très très émouvante. D'une mère qui, au bout du fil, son gamin, qui est avec le père, puisque les parents sont séparés, et puis ce gamin, ben, il est sur une plage, il est tout seul, et il arrive, l'horrible, quoi, un type qui arrive, et voilà. Et là, clac, ça se coupe. Donc cette première scène dure à peu près un gros quart d'heure pour bien poser le contexte de cette femme qui est légère, qui aime la vie, voilà. Et le père, c'est son tour, il a le gamin, bon, voilà. Et puis, 10 ans après, les serveuses sur une plage, et on comprend très vite que cette plage, c'est où le gamin a fini sa vie, quoi. Et c'est d'une délicatesse. Et là, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui font du bon boulot. Il y a des gens qui vous émeuvent, qui vous donnent à réfléchir, qui vous... Et puis des choses nulles, quoi, qui sont attristantes, voilà.
Bon, on va se concentrer sur les belles choses. Je crois que c'est de Rodrigo Sorogoyen, le film, parce qu'on l'a reçu il n'y a pas longtemps, pour une série qu'il a faite sur Arte. Et en effet, il est talentueux. Alors, autre question, Pierre Gagnaire, de quoi était composé votre dernier repas ?
Alors, c'est déjeuner, endives, carottes, brocolito, donc c'est mieux que des brocolis. Voilà, c'était le déjeuner d'aujourd'hui, voilà.
Quel est le plat que vous faites le plus souvent quand vous êtes seul ?
Omelette au fromage, j'adore.
Quel fromage ?
Je suis pas difficile, en fait, je pense qu'il y a...
Pas du Babybel ?
Non, mais pourquoi pas d'ailleurs, hein.
Ah
mais
bon,
ça n'irait pas, à mon avis, avec l'omelette, non. Non, un comté, ou alors des mentales, ou alors un peu de roquefort, l'omelette bien baveuse, c'est absolument délicieux, ouais.
Quel est le plat que vous faites le plus souvent pour votre famille ou vos amis ?
Blanquette de veau, voilà.
Alors, dans une interview pour Libération, vous disiez que vous n'aviez rien contre le McDo, que ça pouvait aussi avoir un rôle social.
Oui. D'abord, c'est un prix relativement raisonnable. Et quand je dis social, c'est une lumière. Moi, je suis toujours frappé lorsque, dans ce qu'on appelle les environnements périurbains, qui sont assez dramatiques, assez angoissants, et il y a un McDo. Ou un quick, ou un que sais-je, hein, qui est là. Il y a de la lumière. Eh bien, c'est un lieu de vie. C'est un lieu qui permet aux insectes de se rapprocher, les insectes, les humains, et de trouver presque un refuge. Moi, je dis ça peut-être parce que je suis peut-être rarement en voiture et sur les autoroutes, mais qu'est-ce que... je vais pas faire l'apologie des aires d'autoroute, mais j'aime ces lieux comme ça incertains où on croise des gens, et il y a des endroits glauques, et puis il y a des endroits, eh ben, il y a de la vie, on mange plutôt pas mal, c'est joyeux, on trouve une carte, on trouve un livre, pas forcément le meilleur, mais voilà, il se passe des choses. Moi, je suis très ému par ça.
Est-ce qu'il vous arrive de manger de la junk food que je traduirais en français par des cochonneries? Des chips, des gâteaux?
Non, chips, non. J'adore les chips, mais... non, mais je suis comme tout le monde, hein, je peux être compulsif. Hein, mais quand même, non, je...
Des bonbons?
Bonbons, non, pas vraiment, non.
Mais du très bon chocolat?
Du très bon chocolat, oui.
Bon, d'accord. Et tout à l'heure, vous avez dit insectes, enfin, les humains. Donc, les humains, pour vous, ce sont des insectes?
Nous sommes tous des insectes.
Ah oui?
Eh ben, on est tous des petites choses sur la Terre. Voilà. Et... Vous savez, on a profité du PGE, ce qu'on appelle pendant le confinement, et cet argent, eh bien, on a la chance d'avoir une entreprise qui marche bien, donc on l'a pris, et on a fait des travaux. Et j'ai eu la chance de rencontrer Abdessemed, l'artiste, Adèle, qui est un type son extraordinaire, et il avait prévu un tando, une œuvre, voilà. Et puis est arrivé le confinement, et bien sûr, spontanément, qu'est-ce qui a été frappant pendant ce confinement? C'était le retour de la vie. La vie animale, la vie des insectes, des oiseaux, des cerfs, des lapins, tout ce petit monde est réapparu. Et donc, c'est devenu l'œuvre qui est aujourd'hui trône au-dessus de nos têtes. Et puis aussi, c'est le rappel que le monde animal, il est tapis, il n'est pas loin. Donc, fourmis comprises. Et puis aujourd'hui, le rapport à la viande, le rapport aussi, le rapport à la mort. Mais la mort, elle n'est pas forcément qu'animale. Donc ça aussi, c'est un sujet. La salade, quand on l'arrache, elle meurt. L'huître, quand on met la cuillère dedans, elle couine aussi, elle meurt aussi.
Donc, qu'est-ce qu'on peut manger?
Voilà. Et ben, alors, qu'est-ce qu'on mange? Voilà. Manger, c'est tuer, forcément. Voilà.
Bon, pause musicale.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Je suis avec le chef étoilé Pierre Gagnère qui publie une masterclass chez De Noël, 10 leçons articulées autour de grands thèmes. Et vous dites qu'il ne s'agit pas d'imiter votre cuisine, mais de s'en inspirer.
Oui, dans la cuisine, elle est multiple et chacun a une sensibilité par rapport aux gestes, par rapport aux produits, par rapport à ses envies. Par rapport à la façon d'aborder la nourriture, d'aborder un produit. Donc, je donne une version, ma version, j'ai l'impression de donner. Quand on m'a proposé ce bouquin, moi je dis, mais j'ai rien à raconter. Moi, je sais rien, et enfin, ce que dit tout le monde, plus on avance dans la vie, bon, on a l'impression de savoir. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, avec les gens qui m'entourent, qui ont à peu près toujours le même âge, c'est de chercher avec eux. Et puis de vivre un moment avec eux, puis dire, voilà, ce matin j'ai fait une salade avec une jeune cuisinière, elle est là depuis quelques temps, puis parfois je glisse un petit message. C'est pas des ordres, c'est une espèce de petite conversation, un peu intime, qui dure 2, 3 minutes, 4 minutes. Je lui dis, mais vous savez, je vais pas vous apprendre grand chose, je vais vous apprendre juste à bricoler des choses. Vous voyez, cette salade, on a un joli cœur là, mais ce cœur vous le coupez en deux, puis on a quelques champignons là dont on va pas bien servir, vous les coupez en tout petits dés, et puis vous jouez avec, vous essayez de sentir le produit, vous essayez de le vivre, et puis aussi de comprendre c'est important de se comprendre ce que veut la personne à qui on va faire à manger. On doit toujours manger. Cela dit, mais on n'a pas envie de manger toujours de la même façon, ni de façon théâtrale, ni de façon frugale, ni de façon compulsive. L'hiver, on mange pas comme l'été. L'été, on mange pas la même chose à 6h du matin ou le soir en fin de journée. Enfin, donc, c'est la nourriture, c'est comprendre un peu la saisonnalité dans laquelle nous sommes, et puis l'état dans lequel sont les gens que nous recevons, voilà.
Y a-t-il un goût que vous n'aimez pas ?
Non, j'aime tout. Non, j'ai pas de... Non, pas de problème.
Aucun aliment...
Peut-être le foie de veau qui me passionne pas. Voilà. Et il me passionne pas, bizarrement, tranché. Alors qu'un foie de veau entier, j'ai pas de problème.
En France, se passer du beurre et de la crème, c'est impossible. Parce que qu'est-ce qui a fait la renommée de la cuisine française ? C'est finalement tous nos crus de beurre, tous nos crus de crème. D'ailleurs, vous voyez, là, ce matin, on fait un peu de cuisine. Tiens, passe-moi de la crème. Et sans crème, c'est pas possible de travailler. Donc, vous voyez, on travaille avec des crèmes de Normandie qui sont très, très épaisses. Et c'est ça, finalement, la cuisine française. La crème peut remplacer le beurre. Parce que, vous savez, si on tourne un peu, finalement, ça fait du beurre. Mais remplacer le beurre et la crème, je pense qu'on n'a encore rien trouvé. Et vous voyez, hein, comme on dit à Lyon, tous nos plats, ils sont gourmands. Ils sont gourmands de crème, ils sont gourmands de beurre. Hein. Vous voyez, 5 litres de crème, ça ne dure pas longtemps chez nous. On passe une moyenne dans notre restaurant de 200 grammes de crème par client.
C'est Paul Bocuse qu'on entend en 76 sur France 3. Pierre Gagnaire, vous avez fait un stage chez lui en 65. C'était militaire en cuisine, mais vous rigoliez beaucoup. Quel souvenir gardez-vous ? Non, et surtout, première question, êtes-vous d'accord avec ce qu'il dit, sachant que là, on est en 76 ? Le beurre, la crème ?
Bon, oui, enfin...
Pas autant.
Pas d'accord à 100%, mais oui, la crème, le beurre sont des fondamentaux. La cuisine française, c'est quoi ? C'est les sauces. Voilà. Et les sauces, je crois que le monde entier nous envie. Voilà. Et la sauce, c'est vraiment l'esprit français, comme le bouillon pour les Japonais. Voilà, donc, ou les pâtes, ou la tomate pour les Italiens. Pourquoi c'est bon ? Parce qu'il y a un peu de gras, donc après, il faut savoir jouer, il faut savoir être raisonnable. On ne peut pas mettre de la crème dans tous les plats, et évidemment, bien sûr.
Oh, quelle tristesse !
Mais, la crème, oui, c'est... Et puis, il parle de crème de Normandie, attention, oui. Hein. Et c'est un Lyonnais qui parle. Hein. Moi, j'adorais M. Paul, hein. C'est quelqu'un pour qui j'avais du respect, de l'affection. C'est un seigneur. Il a toujours eu les pieds bien proches de la Saône. C'était quelqu'un qui avait un clan et avec un parti pris. Parfois un peu, il était un peu injuste, mais vraiment, c'est un grand grand bonhomme. Ouais.
En cuisine, ouais. On s'appelle Monsieur avec le prénom.
Alors, Monsieur Paul, c'était Monsieur Paul.
Vous appelez Monsieur Pierre ?
Non, je voudrais bien, mais c'est trop tard maintenant. Moi, il m'appelle encore chef ou Monsieur, parce que des chefs, j'en ai d'autres. Donc, les gamins sont un peu perdus. Ils sentent bien que je suis encore un peu le chef, alors ils disent Monsieur, mais voilà. Mais alors, moi, je laisse dans le flou. Ils font comme ils veulent, voilà.
Vous avez fait votre apprentissage au restaurant Juliette à Lyon dans les années 60, et vous avez gardé la lettre de recommandation du chef de cuisine qui certifie dedans que vous êtes un garçon à la moralité au-dessus de tout soupçon.
Oui, ben oui, ben
comment,
écoutez,
comment il le savait ?
Ben, il m'a observé, ce monsieur. On était nombreux. Enfin, là, cette lettre, c'est pas mon apprentissage. C'est la maison où j'ai travaillé après, qui était le casino de Charbonnière. Et ce chef était un type, vraiment un type bien. Et alors, c'est très bien calligraphié. Et puis, c'est vrai, finalement, ce qu'il écrit... C'est un peu là de ma vie, la moralité, l'intégrité, le travail, voilà.
Vous avez des regrets ?
On a tous un peu de regrets, évidemment.
Vous auriez aimé être un peu plus cabot ?
Ah, cabot, non, certainement pas. Être cabot...
un peu moins...
Non, un peu moins quoi ?
Je sais pas, un peu moins moral ?
Non, parce que j'ai... Bizarre comme question.
Oui, c'est vrai.
C'est une question bizarre.
Bah parce que parfois, on se dit qu'on aurait eu plus de liberté si on était moins intègre. C'est une parole de ce type intègre là, qui vous dit ça.
Oh, non. l'intégrité. On peut se marrer sans, en étant intègre.
On peut, mais parfois, ça permettrait de faire des choses un peu plus folles.
Mais moi, les folies, je les fais dans mon travail. C'est mon métier qui m'a canalisé. La folie, elle a été dans les... C'était de tout perdre parce que la cuisine était plus importante que l'argent.
Ça, c'était à Saint-Étienne.
C'est à Saint-Étienne. C'était, à la fois une faillite et une victoire. Parce que j'ai vaincu mes peurs avec cette faillite. J'ai vaincu mes incertitudes.
Parce que vous avez pu rebondir après.
Oui, et puis là, j'étais dans un contexte qui était plutôt hostile. Alors que Saint-Étienne est un espèce de doux cocon dangereux, parce que c'était une ville que je connaissais bien, dans laquelle je me sentais tout à fait protégé et à l'aise, ou pas du tout d'ailleurs, je sais pas, mais là, à Paris, j'ai été confronté à t'es capable ou t'es pas capable, voilà.
Parce que la vocation est venue assez tard, vous avez repris le restaurant familial par obligation, et vous dites que votre père ne vous a rien transmis, qu'il vous aimait bien, mais qu'il ne parlait pas. Et vous, le silence, c'est quelque chose qui vous a caractérisé pendant longtemps. 20 ans.
Ouais, plus de 20 ans même, hein. Plus de 20 ans.
Enfin, 20 ans dans la vie professionnelle.
Bien, plus de 20. Oui. Chipotons pas sur les dizaines d'années. Non, mais c'était un peu une époque, hein, et aussi une culture. Mon épouse, qui a deux faces, qui a une face breton, silencieuse, et une face pied noir, cette famille se dit « je t'aime 20 fois par jour ». Moi, je t'aime, c'est un mot. Par exemple, je ne peux pas dire ma femme.
Ah
j'ai,
bon
j'ai l'impression de posséder quelqu'un.
Qu'est-ce que vous dites ?
J'ai dit mon épouse. J'ai même une espèce de distance. Une espèce de pudeur par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment une culture d'une région, d'une époque, puis aussi, peut-être aussi, les origines par rapport à la religion. Ouais.
Qu'est-ce qui a changé pour passer de jouer sa vie sur chaque plat et de travailler dans la douleur à enfin goûter votre cuisine et à éprouver de la joie
Une reconnaissance sociale qui s'est traduite par quelques étoiles, par quelques distinctions, par des contrats. Moi, je n'ai jamais couru après, je n'ai pas d'agent, je suis indépendant, je n'ai jamais cherché à faire des affaires, les affaires sont venues à moi, j'ai souvent dit non, j'ai dit oui, à un moment donné, à beaucoup de choses, tous ces voyages, je ne regrette pas. D'abord ça m'a montré que je croyais très, très pagailleux, très bordélique, je me suis rendu compte que j'étais finalement assez organisé dans ma tête, et dans mon fonctionnement, et ces voyages m'ont permis de gagner un peu de sous, effectivement, parce que c'est aussi ça qui donne une valeur, malheureusement, à un parcours professionnel, c'est un petit peu une réussite sociale qui vous permet de dire, j'ai une certaine valeur. Voilà.
Et pourtant, vous dites que l'art et le commerce n'est pas la même chose, vous le regrettez un peu.
Je regrette, je ne sais pas. Moi, mes confrères, tous, sans exception, qui sont indépendants, petits restaurateurs, enfin petits au sens étoile, sont des gens indépendants, sont des gens qui sont farouchement attachés à leurs faits et gestes qu'ils vont pouvoir contrôler au quotidien. On a tous envie de bien faire, mais il y a un moment donné, parce que nous ne sommes pas sponsorisés, on n'a pas de filet de protection, on est confronté à ce qu'est une petite entreprise. On doit rendre des comptes, l'URSSAF, la TVA, les horaires, nanana. Et au bout du compte, on doit rester toujours sur ce fil plus ou moins tendue entre, effectivement, offrir quelque chose qui a une vraie valeur artistique et aussi quelque chose qui soit commercialement viable, à la fois par le coût et aussi par le retour des clients. Moi, j'ai la chance que ce que je fais semble plaire et toujours plaire, donc j'ai pas de problème de remplissage, mais peut-être qu'un jour, je vais lasser. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, c'est cette difficulté à trouver entre les deux, quoi.
Oh là là, il y a plein d'oxalis, là.
Je suis né derrière le cul des vaches. Et oui, je suis né dans la forêt, on bûcheronnait, on faisait notre jardin, on n'avait pas de sous, hein. Mon grand-père, qui était communiste et anticlérical, il a fait venir l'école laïque à Manigot, à 6 km du village. Donc tous les matins, à 5 ans et demi, je faisais 6 km. Il m'attendait à la sortie de l'école. Et qu'est-ce qu'il y avait sur le chapeau? C'était un berger. Les myrtilles, les fraises des bois, les framboises, le moment venu, un acte d'amour. C'est ça la cuisine.
Pierre Gagnaire, vous citez dans vos vraies amitiés avec les gens du métier, oui. Marc Vera, oui. Qu'on entend sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes en 2024. C'est lui qui vous a prêté de l'argent après votre faillite. Et oui. Vous ajoutez, je ne suis pas dans son délire parce qu'il est fou comme un lapin.
Le Marco, je l'aime énormément. Mais c'est vrai qu'il faut le suivre, voilà. Mais il s'est bien calmé, là. Il va bien, Marco. C'est un type brillant, malin. Savoyard, très malin, beaucoup plus qu'un forésien, et ça c'est clair, il fait toujours pitié, j'ai l'impression qu'il donne 3 sous, mais c'est quelqu'un d'extrêmement attachant, et qui, on n'en parle pas assez, mais c'est un immense cuisinier, c'est quand même, alors ça le portait un peu, ça a été un peu difficile pour lui, mais c'est le seul cuisinier qui a eu 20 sur 20 au Goemio, et c'était justifié. Un instant T, il était au sommet de son exercice. Le danger, c'est comme dans le tennis ou dans la Formule 1. Les champions du monde hier, ils gagnent de 2 points. Donc, on n'est jamais le premier. L'important, c'est d'être dans les bons, de durer, et durer sans se compromettre. Voilà. Et ça, c'est le... Voilà. Donc, c'est là qu'on revient au commerce et gestes artistiques.
Et en même temps, la chose qui vous a sauvé, la candeur. Vous parlez de cette candeur qui vous a sauvé du cynisme et des déceptions de ce monde sophistiqué de la cuisine.
Voilà, et je veux vraiment rester candide. Et c'est vrai que parfois on est très déçu par des comportements, par des gens. Je parle même pas du privé, là, je parle du professionnel. Les gens vous lâchent pour rien, on ne comprend pas. Mais c'est pas grave. Enfin, si c'est grave, mais... Il faut vite passer à autre chose, et puis il faut pas dévier de sa route, quoi. Faut rester frais, naïf, et pas devenir cynique, quoi. Ouais, c'est tous des vieux cons, avant c'était ceci, cela, puis avant ils travaillaient, non. Voilà, il faut rester absolument positif, ouais.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Pierre Gagnaire, vous sortez une masterclass chez De Noël et j'aimerais bien qu'on parle de l'importance des mots pour vous, puisque vous avez toujours dit que mets et mots étaient liés. Il y a une poésie culinaire dans vos menus, cristalline d'agria, chantilly, coquelicot, amande, polignac. Comment vous trouvez vos sources d'inspiration?
Ça, c'est le mystère de l'inspiration. C'est... Il faut te concentrer. Bien sûr, par la force des choses, j'ai un certain nombre d'activités qui m'éloignent un peu du fourneau. Mais là, je vais vous quitter.
Non, ne me quittez pas.
Je vais vous quitter dans un petit moment.
Ah, d'accord.
Et je vais retourner en cuisine. Voilà. Donc, c'est une espèce de prison dorée, quand même. Mais.
Là, vous y retournez après le direct.
Ah, bien sûr, évidemment, bien sûr. Et le matin, je me lève très tôt, je pars en voyage. Mais je vis, je pense cuisine. Donc, je suis dedans. La saison, puis les petites idées comme ça, tac. Mais ça, c'est pas explicable. Et effectivement, les mots, parce que moi, j'ai pas de cadenas de recettes. Moi, le livre, là, il y a des recettes. Pour moi, c'est le plus difficile. C'est d'être capable de sortir 100 recettes à peu près cadrées.
Parce que vous innovez sans cesse.
Oui,
je pense puis... à la fois où vous dites qu'à un moment, vous imaginez un dessert de brousse, abricot rôti et concombre.
Oui.
Et vous dites, on ne l'a jamais fait, mais je suis sûre que ça fonctionne
bien. Et ça, c'est à peu près mon quotidien.
Mais alors ça, en fait, vous avez déjà les saveurs en tête.
Oui.
Vous les mêlez.
Je les rêve.
Et vous ne les goûtez même pas avant.
Non, très très
peu.
Vous
lancez.
Je goûte très peu ma cuisine, mais sans doute que c'est peut-être une erreur. Mais le drame et la limite, c'est que nous n'avons qu'un estomac, et il y a un moment donné, on est saturé. Donc si je veux rester frais, pétillant, j'y vais, je lance. Et puis étant présent, dans le moment où on lance ces nouvelles choses, je suis là, je ressens, je retexture, je recadre, et puis voilà, le plat vit sa vie, et quand le plat est très au point, je l'arrête.
Ah oui ?
Toujours, oui.
C'est triste.
Et parce que le plat, pour moi, il est mort.
Oh, parce que ça marche.
Le plat, il faut qu'il y ait une énorme dose d'émotion. Et c'est cette émotion qui va créer quelque chose qui va toucher les gens. Voilà.
Quelle émotion ?
Ah ben ça, c'est pas moi de le dire, c'est les gens qui sont assis à table. Mais
donc
moi, je vois bien le retour des gens. Moi, je suis un peu subjugué.
Ça vous comble à chaque fois de les voir se régaler ?
Ça me comble de voir que les gens sont heureux, oui. Et qu'il y a une espèce de magie qui passe par la bouche, quoi. Et qui se traduit par des tables heureuse d'être ensemble, parce que c'est aussi de la c'est du lien, et nous on est des créateurs de liens, voilà.
Alors, tout à l'heure, je vous ai demandé d'où venaient vos inspirations, mais parfois on retrouve quand même des choses assez amusantes. Ouais. Les sardines gonzo, c'est Hunter S. Thompson, le parmentier de Petit Pois Turner, c'est le pain de Britannique, tout vous inspire.
Oui, puis il y a des moments où c'est tellement compliqué qu'il faut que je mette un nom, quoi.
Parce que, par exemple, le parmentier de Petit Pois Turner, qu'est-ce qu'il y a dedans ?
Eh bien, Turner, ce qu'il y a dedans, on s'en fout, à la limite.
Il y a de la pâte d'amande, je trouve ça quand même assez fantastique.
Il y a du thé vert, et c'est la couleur, c'est du Turner, quoi. Mais il faut que ce soit très bien fait, parce que c'est un exercice un peu difficile entre la pâte d'amande, entre le thé vert, le petit pois, un petit peu de beurre frais. Il faut trouver le bon équilibre. Voilà. Et ça, je le trouve. Alors après, c'est transmettre cette justesse du geste aux gens qui m'entourent. Et ça, on est quelques-uns à en parler. Alain Passard, Rollinger, Brasse, Vera et quelques autres. On parle du geste, et ce geste, c'est la délicatesse au-dessus des assiettes qui fait qu'on n'est pas des brutes épaisses. On est des gens qui faisons marcher notre cerveau et qui avons une espèce de sixième sens, mais comme quelqu'un qui peint un tableau ou qui écrit un livre. C'est à la fois de l'inspiration et après, c'est de l'artisanat.
Mais vous dites que vos mains, parfois, ne suivent pas toujours votre cerveau.
Oui, mais c'est ce qui m'a permis de faire cette cuisine émotionnelle. Parce que j'ai dû trouver des trucs pour adapter ces plats à mes mains, plutôt maladroites.
La discipline scientifique gastronomie moléculaire, c'est chercher les mécanismes des phénomènes qui surviennent qu'en cuisine. Mais en fait, ça, il y a eu en même temps, c'est là où il y a de la confusion, c'est en même temps j'avais inventé la cuisine moléculaire en 1980. Et la cuisine moléculaire, ça veut dire cuisiner de façon raisonnable, enfin moderne. Au lieu d'avoir des fouets, des casseroles comme au Moyen-Âge, on a des siphons, des ampoules à décanter, et aujourd'hui elle est partout. Oui, parce que vous voyez, la cuisson basse température, c'est un résultat de la cuisine moléculaire. Je disais aux gens, prenez ces objets qu'on a en laboratoire pour cuire précisément. Et ils sont équipés progressivement, après faire un Adria et des chefs comme ça, et aujourd'hui il y en a partout. Vous allez dans un grand magasin acheter un four, il y a une fonction basse température.
Alors, grâce aux physico-chimistes et professeurs au Collège de France à l'origine de la cuisine moléculaire, Hervé Thys, qu'on entend en 2018, j'ai appris qu'il fallait toujours utiliser le poivre à la fin et que le sel faisait diminuer la température de l'eau. Ça, je le sais grâce à votre sel glace, Pierre Gagnère. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, à partir de 2001, de collaborer avec lui? Parce qu'il vous envoyait, vous reproduisez certaines de ces, certains de vos échanges, il vous envoyait quelque chose à traduire en cuisine.
Intention scientifique. Et je l'ai traduit par une intention artistique.
Vous avez travaillé 10 ans ensemble.
Mais je ne suis pas le plus... Je ne suis pas son meilleur élève. Celui qui a été vraiment le... D'ailleurs, aujourd'hui, cette cuisine moléculaire a été injustement très critiquée, mais critiquée parce que le phénomène de la mode en a fait quelque chose d'indigeste. La mode, elle est horrible parce que elle donne des mauvaises informations à des gens qui disent on va faire que ça et on va avoir du succès et on va faire moderne. Alors que moi, j'ai toujours j'aime beaucoup Hervé, c'est quelqu'un qui est honnête, qui effectivement est le véritable inventeur de cette cuisine moléculaire. Mais je me suis toujours gardé de le suivre à la lettre. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est le fait d'être confronté à de la connaissance, effectivement, d'apprendre. Aujourd'hui, c'est une hérésie de poivrer et salé poivrer. Et j'entends encore tous les jours dire des gens salé poivrer. Non, le poivre, c'est un aliment comme le thé qui est vivant, qui est magnifique, mais il est magnifique à une condition, c'est qu'on lui restitue toute sa grandeur et toute son élégance si on met à la fin. Si on met au départ, il disparaît. Quand vous faites un thé, le meilleur thé du monde, si vous le faites infuser pendant un quart d'heure, ça devient amer, ça devient âcre, ça devient la couleur de vire complètement. Voilà, donc... Et en fait, ce qui est intéressant dans son travail, c'est aussi des explications. La cuisine, c'est un métier, et ça continue d'être un métier quand même, de transmission orale et de choses qui ont été dites. Par exemple, on parle des haricots verts, tout le monde dit couvrez, surtout ne pas cuire un légume vert à couvert, parce que ça va le noircir. Et il a prouvé, après 3 ans d'études quand même, que c'était une bêtise. Donc si on couvre, on dépense moins d'énergie, ça cuit plus vite, et le résultat est absolument le même. Voilà.
Too slow.
Pierre Gagnard, je crois que vous adorez Frank Zappa, dont on entend le morceau Uncle Remus. Mais vous étiez gêné par sa prise de drogue, c'est la seule chose que vous lui reprochez.
Ah non, la drogue, je suis pas à l'aise avec ça, je suis... C'est... Bon, on va pas trop en parler, mais...
D'accord.
C'est un fléau absolu.
Alors, tout de suite, votre choix musical à la rescousse. C'est le pianiste Brad Meldau qui reprend Sunday de Nick Drake sur son dernier album.
Oui, oui. Cet album est absolument magnifique. C'est du Keith Jarrett moins délirant. C'est un très très beau, c'est vraiment un magnifique disque. Puis c'est un très grand pianiste, quoi. Voilà. Et tout le disque, c'est une merveille. Ouais.
Le dernier album de Jackie Terrasson, qui est aussi superbe pour vous. Et là, on entend « Est-ce que tu me suis ?» avec Camille Berthaud.
Oui.
Vous voulez en dire un mot ?
Jackie Terrasson, je le connais depuis des années. On se connaît sans se connaître, mais il me connaît par ma cuisine. Voilà. Et ce qui est très rare, je vais l'écouter jouer dans quelques semaines. Il passe au Sunset. Et je vais c'est son concert, voilà. C'est peut-être, quand on parlait de regrets, si j'ai un regret, oui. J'ai pas vu assez de concerts, j'ai pas vu assez de choses vivantes, voilà.
Vous vouliez voir John Jackson aussi.
Et Joe Jackson, et puis j'ai pas vu les Stones, j'ai pas vu Johnny.
Il y en a pour qui c'est un peu trop tard, mais bon, avec les hologrammes, on ne sait pas. Vous dites que par manque de temps, vous ratez les expositions, les concerts, mais vous lisez.
Oui, alors je lis très lentement, mais j'ai toujours un livre dans la poche.
Qu'est-ce que vous lisez en ce moment ?
Alors, en ce moment, je viens d'attaquer, Gauthier Battistella.
Ah oui, qui est écrit sur la musique, puisqu'il faisait partie du guide Michelin.
Et alors il a écrit un livre sur Bocuse. Et tout à l'heure, quand vous m'avez posé la première question que vous m'avez posée, quelle est votre dernière émotion ? Les trois premières pages, il décrit Monsieur Paul. Le matin, il y avait des commis qui montaient l'escalier, qui tournaient près de sa chambre. Petit coup de sonnette, Monsieur Paul était réveillé, et là, ces gens, il était au-dessus du restaurant, venaient l'aider à s'habiller, et il décrit la fin de la vie de cet homme. Et ces trois pages sont extraordinaires, d'émotion et de vérité face à ce qui nous attend tous, la déchéance, la vieillesse, l'oubli.
Vous en avez peur ?
J'ai, comme tout le monde, c'est pas la mort qui fait peur, c'est la déchéance physique. C'est terrifiant, oui. Mais bon, voilà, c'est comme ça.
En attendant, parlons jouissance, parlons corps vivant et nourriture. Grâce à votre masterclass, Pierre Gagnard, j'ai appris que le cèpe séché s'appelait aussi la poudre à tabac.
Poudre à tabac, oui.
La trompette de la mort était un magnifique champignon que vous ne connaissiez pas au début de votre métier. Vous avez découvert plein d'aliments.
Je ne connaissais rien.
Vous avez fabriqué votre goût.
Non, mais je ne connaissais rien, même personne ne connaissait rien. La cuisine, c'était des haricots verts, des épinards, du riz, des patates. Alors qu'aujourd'hui, les patates se sont transformées en charlotte, en pompadour, en rat de l'île de Ré. Donc, à la fois, le monde végétal, enfin, le monde vivant des produits s'est vraiment rétréci, mais à la fois, grâce à l'INRA, grâce à ces gens passionnés de jardin, aujourd'hui, vous avez toutes sortes de pommes, de poires, de fraises, aujourd'hui, le topinambour, je ne connaissais pas, le cerfeuil tubéreux, je ne connaissais pas, voyez, les salsifis, on ne cuisinait pas de salsifis.
Alors, on apprend aussi plusieurs associations auxquelles on ne penserait pas forcément. Il y a un petit chapitre qui s'appelle « Comment rendre un concombre séduisant avec du tarama ou de la poire ?»
Oui, oui. D'ailleurs là, je voudrais rendre hommage à mon complice, c'est lui qui m'a torturé, c'est Jackie Durand, parce que c'est, je trouve ça, effectivement, ce livre a été fait assez vite, et c'était des espèces de, c'était des questions de journalistes, quoi. Et j'aime bien aimer, parce que ça, bam, 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 il faut tout de suite que je percute, quoi, pour trouver la petite idée qui va, moi, me plaire, et puis qui, éventuellement, va amuser la personne qui va lire ce bouquin, quoi.
Ouais. Alors, moi, c'est vrai qu'on passe par des milliers d'anecdotes très inattendues. À un moment, vous dressez la liste des indispensables du placard et du frigo. Je vais pas la lire parce que les lecteurs pourront la découvrir par eux-mêmes, mais à un moment, on reparle de poivre. Est-ce qu'il n'y a pas de poivrier sur vos tables, non, ni de salière, non. Et vous dites qu'on peut en posséder plusieurs. Alors parlez-nous un peu du poivre blanc, plus raide et moins séducteur que le noir. Vous dites que c'est lacanien pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire?
Comme c'est lacanien, j'y comprends rien.
Ah oui, d'accord.
Mais j'y comprends rien, mais je sais que c'est différent.
Alors qu'est-ce qu'on le met où, le poivre blanc?
Le poivre blanc, on va le mettre sur des fruits. Par
fruits.
Exemple, concassés.
Vous mettez aussi du sel sur les fruits.
Un petit grain de sel, effectivement. D'ailleurs, petite trouvaille herbétiste, le grain de sel sur un pot-au-feu, par exemple, si vous ne voulez pas qu'il fonde, vous l'immergez dans un... Enfin, vous ne l'immergez pas, vous l'arrosez de quelques gouttes d'huile ou d'arachide d'huile d'olive. Cette petite pellicule de gras va permettre au sel de ne pas fondre, voilà.
Oui, ça on le découvre dans votre livre. Ouais. Pour vous, l'échalote, c'est une grâce de la nature, la perfection.
Oui, oui, oui. Mais j'aurais pu dire un autre produit 2 heures après. Hein.
D'accord, vous changez facilement d'avis.
Ah bah, non mais... Attendez, on a la chance extraordinaire d'avoir un jardin dans notre pays qui est fabuleux. L'échalote, par exemple, c'est quelqu'un qui ne cultive que de l'échalote. Et cette échalote, vous la cuisez entière, vous la cuisez au four sur un lit de sel, vous la dépecez lorsqu'elle est cuite, 40 minutes après, rien, mais rien, rien, pas d'huile, rien, mais c'est absolument délicieux. Et ça va pouvoir accompagner peut-être un petit râpé de chèvre un peu glacé, ça va être déposé sur une petite feuille d'endive, c'est une merveille toute seule, voilà. Voilà.
Je ne sais pas cuisiner, qu'est-ce que vous conseilleriez aux auditeurs qui sont nuls en cuisine? Un truc simple et bon. Pas trop compliqué.
Tiens, on est en hiver, il fait un peu froid.
Oui.
Poire aux pommes de terre, voilà.
Alors, on va avoir...
Vous prenez 2 pommes de terre, oui. Des patates les plus banales du monde.
D'accord,
hein.
Je les ai.
Bah, voilà. Voilà, ce qu'on appelle des binges ou des... Voilà. Oui. Bon. Ces pommes de terre, vous les coupez en quartier, vous les rincez, vous prenez donc 2 pommes de terre, vous prenez 3 poireaux, ces poireaux, vous les bien nettoyez, vous les coupez, vous prenez une casserole, vous mettez du beurre frais, vous mettez un petit peu d'huile d'arachide, et vous mettez vos poireaux et vos pommes de terre. Et pendant quelques minutes, à feu plutôt doux, vous les remuez. Jusqu'à ce que les poireaux deviennent un tout petit peu colorés. Là, vous mettez un peu de sel, balancez de la flotte, à hauteur, et vous faites cuire.
Combien de temps ?
Faites cuire...
Une semaine.
Non, 25 minutes, 30 minutes.
Et on le mange comme ça.
Et après, vous le passez au mixeur, au blender, ou alors vous l'écrasez, ou vous le passez à la moulinette.
C'est déjà trop compliqué.
Et là-dedans, non, c'est pas compliqué. Et ça, vous le... Voilà. Et puis après, vous mettez un œuf.
Il y a pas quelque chose avec une endive et...
Une endive, crue ou cuite?
Crue, vous voulez en faire le moins possible.
Ben, vous l'émincez.
Oui.
Vous mettez un jus de citron.
Oui.
Un peu de sel,
oui, ça c'est possible.
Un petit peu d'huile de noix,
oui.
Voilà. Vous mettez un peu de persil haché dedans.
D'accord, ça commence.
Voilà. Alors, allez oublier le persil.
Allez, je l'oublie.
Quelques grains de raisin frais.
Ah oui, d'accord.
Voilà, quelques grains de raisin frais. Quelques segments de clémentine.
D'accord.
Raisin, segmentine, c'est voilà. Bon. Et puis, vous terminez par des petites miettes de roquefort.
D'accord.
C'est pas cher et c'est vite fait.
D'accord.
Et vous pouvez mettre un œuf dur.
D'accord.
Faire l'œuf dur.
Bah ouais, mais moi, pour faire l'œuf dur, je...
10 minutes, l'œuf dur.
C'est ça. j'aime pas trop
ça. Vous êtes pire que ma femme, vous.
Oui, parce que votre femme, elle aime pas trop manger, c'est
pire
incroyable.
Pire que mon épouse, attention.
Non, je le prends pour un compliment. Non, moi j'adore manger. Vraiment, on peut me corrompre en me faisant à manger. Mmh. Mais votre femme n'aime pas trop manger.
C'est pas trop son truc, non.
Mais ça vous va, parce que vous dites que comme ça, au moins,
non,
elle
ça
n'est pas groupie.
Oui, parce qu'elle a d'autres centres d'intérêt, et ça me va très bien, notamment la littérature, dans laquelle elle excelle. Voilà, mais c'est pas le truc, on va pas faire 300 km pour aller dans un restaurant. Certainement pas.
D'accord. Bon, alors en même temps...
Mais j'y vais seul, moi, par contre.
Au restaurant.
Avec un copain, voilà.
Dans d'autres.
Parce que moi, j'aime ça.
Ah.
Quand même.
Oui. Bon bah merci beaucoup Pierre Gagnère.
Merci.
Je rappelle que Masterclass Pierre Gagnère en cuisine est paru aux éditions de Noël et ça fourmille d'anecdotes et d'associations et de choses auxquelles on ne pense pas. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Fanny Leroy et Louise Morfouas. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Gaspard Guy Bourget. À demain.